toujours à l'écoute de Radio France Internationale et vous avez bien raison, il est 15h ici à Paris, 13h temps universel. Dernière partie de RFI Midi, bienvenue si vous nous rejoignez pour cette demi-heure consacrée à l'actualité d'Haïti et du continent américain. Avec d'abord évidemment ce coup de tonnerre en Haïti, l'ex-président Michel Martelly sous le coup de sanctions américaines. Il est accusé par Washington de trafic de drogue et d'avoir joué un rôle dans la crise sécuritaire qui frappe le pays. On revient aussi sur la convention démocrate américaine, elle se déroule en ce moment. Avec ce moment fort hier, la prise de parole de Barack Obama, il salue en Kamala Harris l'espoir retrouvé pour le parti, surtout pour les États-Unis. Et puis l'actualité des Outre-mer, avec vous Benoît Ferrand, et à la une, les problèmes d'eau en Guadeloupe, ça continue. À Marie-Galante, notamment, les restrictions ont été prolongées d'un mois et sur la partie de l'île dite continentale, on en est réduit parfois à distribuer des bouteilles d'eau aux habitants, Benoît.
Eh oui, ça s'est passé hier, par exemple, dans la commune du Gosier. Nous entendrons la colère d'une habitante et la réaction de la maire de la commune.
À tout à l'heure, Benoît Ferrand, on vous appelle dans 20 minutes. Et d'abord le journal, avec vous Gilles Moreau, bonjour Gilles.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Et à la une, ce duel Donald Trump-Kamala Harris qui se met en place petit à petit à 2 mois et demi de la présidentielle aux États-Unis.
Oui, encouragé par les sondages, un vent d'optimisme souffle sur la convention nationale du Parti démocrate qui se tient jusqu'à demain à Chicago. Dans une ambiance très festive et même très bruyante, les délégués ont officiellement adoubé hier soir le ticket Kamala Harris-Tim Walz. Reportage de notre envoyé spécial Guillaume Nodin.
My name is DJ Cassidy, and I'd like to welcome you all to the Democratic National Convention Roll Call.
Ce n'est pas parce que tout est déjà décidé d'avance qu'on est obligé de s'ennuyer. Ce que vous entendez, c'est un vote en musique. Un DJ choisit une chanson de chaque État pour illustrer son vote, et ça donne une ambiance de boîte de nuit.
C'est un honneur de donner à l'unanimité nos 34 votes à la prochaine présidente des États-Unis, la vice-présidente Kamala Harris.
Dans la salle, les délégués sont extatiques, comme Pinky Varner de la Géorgie, totalement conquise par la candidate.
Je l'adore, j'adore son enthousiasme, j'adore ce qu'elle prévoit de faire. C'est une femme noire et elle fait l'histoire pour les femmes noires.
Avec son chapeau lumineux sur la tête, Sabrina Hotness, déléguée de l'État de Washington à l'autre bout du pays, n'est pas afro-américaine, mais elle attend aussi beaucoup de Kamala Harris.
Nous sommes vraiment contents. Vous pouvez sentir l'électricité à cette convention et ça va nous renvoyer à la Maison Blanche.
Une électricité et même une joie perceptible, une joie revendiquée par la campagne Harris et qui inonde la convention. Guillaume Nodin, Chicago, RFI.
Et aujourd'hui, la grand-messe de Chicago verra l'intervention de Tim Walz, le colistier de Kamala Harris. Il deviendra vice-président des États-Unis si la démocrate est élue en novembre. La menace de paralysie pèse sur le réseau ferroviaire du Canada, secteur très important pour toute l'économie canadienne. Les négociations pour une nouvelle convention collective des cheminots sont au point mort depuis plusieurs semaines. Si rien ne bouge d'ici à demain, les grands transporteurs menacent les employés de mise à l'arrêt de tout le secteur.
Le Panama confronté à une importante crise migratoire, Gilles.
Oui, 29 migrants colombiens ont été renvoyés vers Bogota alors qu'ils venaient de passer illégalement la frontière entre les deux pays. Leur expulsion résulte d'un accord signé le mois dernier entre les États-Unis et le Panama. Le Panama, pays devenu le point de passage obligé pour tous ceux qui rêvent d'entrer aux États-Unis. Les précisions de notre correspondant Grégoire Pourtier.
Prenant ses fonctions en juillet, José Raúl Mulino avait prévenu. La frontière américaine ne se trouve plus au Texas, mais dès le Panama. Dans la foulée, le nouveau président signait un accord avec les États-Unis prévoyant une aide au rapatriement de migrants illégaux, politique matérialisée ce mardi avec le renvoi par avion de 29 personnes. Embarqués menottés, ces Colombiens avaient tous des antécédents judiciaires, l'un d'eux étant même considéré comme membre de l'organisation criminelle du clan du Golfe. Ils n'étaient pas les premiers à être ainsi expulsés, puisque le Panama avait déjà pris cette initiative plus tôt dans l'année, mais l'accord avec Washington devrait augmenter les fréquences. Un nouveau vol spécial est prévu d'ici la fin de la semaine. De plus, s'ils sont déjà plus de 10 000 à avoir traversé la jungle du Darién cette année, les Colombiens sont loin d'être les plus nombreux. 10 fois plus de Vénézuéliens sont eux aussi entrés en Amérique centrale, mais les relations compliquées avec Caracas n'ont pas permis de démarrer la procédure d'expulsion. Grégoire Pourtier, Panama, RFI.
Et comme d'autres parties du monde, Gilles Moreau, l'Amérique latine craint une propagation d'une nouvelle souche du Mpox.
Oui, ce virus, jusqu'à présent appelé variole du singe. Après la Chine et d'autres pays d'Asie, c'est au tour de pays latino-américains de rehausser leur vigilance. En Argentine et Honduras, les autorités ont pris des mesures préventives. Un bateau a été placé en quarantaine après la découverte d'un cas suspect. Et les aéroports honduriens ont eux aussi pris des dispositions. Nicolas Roca, l'image de ces deux pays un peu partout en Amérique latine, on se prémunit.
Oui Gilles, l'équipage d'un navire cargo placé à l'isolement pour que les autorités sanitaires écartent tout danger d'entrée d'une nouvelle souche d'un virus sur le territoire. Cette histoire ravive les souvenirs de la pandémie de Covid, mais elle est bien d'actualité en Argentine. Des lésions cutanées ressemblant à des kystes sont apparues sur le torse et le visage d'un membre de l'équipage de ce bateau battant pavillon libérien. Suffisant pour que le ministère de la Santé argentin décide ce mardi d'isoler le patient et demande à l'équipage de rester à bord du navire actuellement sur un fleuve à proximité de la ville de Rosario. Si le pays a enregistré 8 cas de Mpox depuis le début de l'année, aucun n'était de la souche 1B dont la propagation inquiète à l'échelle mondiale. Au Honduras, pas de nouvelles infections annoncées, mais le pays se prépare à toute éventualité. Les autorités ont annoncé la mise en place de postes de surveillance épidémiologique aux principaux points d'entrée dans le pays, comme les ports et les aéroports. Du personnel de santé a été déployé pour surveiller l'arrivée de voyageurs, notamment depuis l'Afrique de l'Ouest qui concentre la majorité des cas, mais aussi pour isoler rapidement les personnes symptomatiques.
Merci Nicolas. C'était Nicolas Roca en direct dans ce journal. Encore un souci pour Boeing. La firme américaine suspend les tests en vol de son nouveau gros porteur 777X après avoir constaté la défaillance d'une pièce reliant le moteur à la structure de l'appareil.
Également dans l'actualité, ces feux dévastateurs dans la forêt amazonienne.
Oui, sous l'effet d'une sécheresse extrême, la plus grande forêt tropicale de la planète est ravagée par des incendies ravageurs dans l'état brésilien de Rondônia. Les habitants suffoquent sous un épais nuage de fumée. Stéphanie Schuller, les autorités alertent la population sur les dangers pour la santé, mais sans pouvoir changer la donne.
Le gouverneur de Rondônia tient à montrer la pleine mobilisation des pouvoirs publics. Cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre Marcos Rocha en réunion de crise, entouré des chefs des pompiers, de la protection civile, de la brigade en charge de la protection de la forêt et d'Antonieta Ferreira, médecin à l'hôpital pour enfants dans la capitale Porto Velho.
Les principales maladies auxquelles nous sommes confrontés sont les crises d'asthme qui augmentent en raison des fumées. Il y a aussi des pneumonies, des sinusites et quelques conjonctivites. La tendance est à l'augmentation puisque les enfants sont exposés à cet environnement sans pouvoir y échapper. Cela entraîne une augmentation des hospitalisations, ce qui était prévisible.
Porto Velho enregistre la pire qualité de l'air parmi les grandes villes brésiliennes. Le taux de particules fines est monté à 246 microgrammes par mètre cube, un niveau dangereux selon l'OMS. L'épais brouillard de fumée qui étouffe la ville est dû aux incendies dans la forêt amazonienne. Les brûlis pratiqués par les éleveurs et une sécheresse record attisent les flammes, pas seulement au Brésil mais aussi en Bolivie voisine, où rien que ces 4 derniers jours, près d'1 million d'hectares ont brûlé.
Avant de conclure, cette fois en bref, c'était sa 9e tournée dans la région depuis le début de la guerre Israël-Hamas. Le voyage au Proche-Orient du secrétaire d'État Anthony Blinken a pris fin sans résultat tangible. Anthony Blinken n'est visiblement pas parvenu à avancer sur une trêve à Gaza. Enfin, en France, nous sommes à une semaine de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris. Des para-athlètes venus de quelques 180 pays doivent s'installer au village en banlieue nord de Paris. Et les premiers, Stéphane, arrivent aujourd'hui.
Effectivement, on en parlait dans RFI Midi. Merci beaucoup. C'était le journal de Gilles Moreau. Gilles, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point d'information. Pour l'heure, il est 15h09 ici à Paris. 9h09 à Port-au-Prince.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
C'est à la une des journaux haïtiens. Ce mercredi, l'ancien président du pays entre 2011 et 2016, Michel Martelly, fait l'objet de sanctions américaines. Les États-Unis qui le sanctionnent pour trafic mondial de drogue, le Nouvelliste y revient largement. Reprenant le communiqué du Trésor américain, il est précisé que Michel Martelly a eu un rôle important et déstabilisant dans la perpétuation de la crise qu'il a jouée avec d'autres membres des élites corrompues. La Gazette Haïti affirme pour sa part que les États-Unis, en coopération avec leurs partenaires internationaux, cherchent à démanteler les réseaux criminels qui alimentent la violence en Haïti. Puisque selon Washington, Michel Martelly, qui vit en ce moment aux États-Unis, à Miami précisément, aurait usé de son influence pour permettre notamment l'acheminement de cocaïne sur le sol américain et parrainer les gangs basés en Haïti. Une victoire, mais surtout une première étape pour Pascal Solage, membre du mouvement citoyen Nous Pape Domi, qui lutte depuis 2018 contre la corruption en général en Haïti et le système Martelly en particulier. Pascal Solage qui répond aux questions de Michael Ponge.
On ne va pas dire que c'est notre dernière victoire, c'est même une très petite victoire, mais pour nous, chaque pas compte, parce qu'on le dit toujours, c'est un marathon, c'est 6 ans plus tard quand même, et c'est un prix très élevé qui a été payé par beaucoup d'entre nous, mais on n'a jamais arrêté, on n'arrête toujours pas, et on veut se dire que c'est une étape dans ce que nous voulons, nous exigeons, nous, comme punition, comme tout ce que vous voulez, mais pour nous, c'est important. Et même si aujourd'hui, la question de la justice en Haïti, elle est très problématique, c'est-à-dire que quand on voit ça, on se dit, OK, qu'est-ce que Haïti va faire? Qu'est-ce qu'on peut attendre de la justice haïtienne? Qu'est-ce qu'on peut... On voit déjà les conséquences que cela va avoir pour Michel Martelly, mais au niveau de la justice haïtienne, comment ça peut se faire justement pour créer une jonction pour que ça puisse continuer, et la prison et tout, parce que là, on parle de trafic de drogue, et trafic de drogue implique aussi des vies humaines, ça implique tellement de choses. On parle de déstabilisation de la crise qui est encore perdue en Haïti et du rôle que Michel Martelly et d'autres politiciens ou autres acteurs d'autres secteurs ont contribué à mener en Haïti. Et là, on parle de vies humaines. C'est-à-dire, c'est pas seulement on en parle sur du papier, on parle de l'impact concret que ça a sur nos vies en tant qu'haïtiennes et en tant qu'haïtiens. Les vies perdues, les vies détruites, les personnes qui ont été obligées de laisser leur pays, la crise économique, la crise sociale, la crise sécuritaire, c'est de ça qu'on parle. On parle de la vie des haïtiennes et des haïtiens, concrètement. Et ça, c'est important pour nous. Aujourd'hui, on compte par milliers les assassinats, les cas de viol, les kidnappings, l'inflation. Tout ça, ce sont des résultats de cette crise créée par ces acteurs dont Michel Martelly et autres ont contribué à faire dans ce pays pendant des années. Ça a mené à ce que nous vivons aujourd'hui en termes de crise multidimensionnelle en Haïti.
Parce que Michel Martelly n'est que l'arbre qui cache la forêt, si je puis dire.
Oui, c'est l'un d'entre nous. On parle toujours du pouvoir PHTK, on parle du mouvement PHTK, on parle du parti PHTK. Donc, que ce soit au niveau politique ou au niveau économique, les acteurs, ils sont beaucoup. Et ils ont tendance aussi à se renouveler, à se transformer, à s'adapter, malheureusement. C'est comme si ça ne s'arrête jamais, en fait. Il faut stratégiquement voir comment aborder aussi cette question. Ce n'est pas un individu, c'est un système, c'est un parti, c'est un groupe, c'est un ensemble d'acteurs. Donc, aller au fond des choses et avoir ce que nous avons besoin pour avoir une stabilité en Haïti.
Le symbole est fort, on le comprend. Néanmoins, on rappelle aussi que l'ONU a bien souligné le peu d'effet que les sanctions ont contre ces acteurs haïtiens. Est-ce que vous craignez que tout ça ne soit effectivement qu'un symbole ?
Oui, on craint toujours. On craint toujours parce que, comme je l'ai dit, nous, au niveau d'Haïti, on a un système judiciaire qui est extrêmement faible, mais sinon presque totalement non fonctionnel. Il y a aussi effectivement qu'on reproche beaucoup le fait qu'on ne sent pas assez l'impact d'avoir des sanctions sur les acteurs qui ont déjà été sanctionnés dans le passé, que ce soit des acteurs économiques ou des acteurs politiques. Mais comme je l'ai dit, pour nous, c'est une étape, c'est un pas, et cela implique aussi stratégiquement, collectivement, de voir comment avancer pour pouvoir amplifier ce que ces actions, ce que ces décisions peuvent avoir comme impact et peuvent avoir aussi comme retour pour nous en tant que population haïtienne.
Pascal Solage, membre du mouvement citoyen Nous Pape Domi, jointe par Michael Ponge pour RFI. Par ailleurs, l'avocat du président Martelly a pour le moment refusé de commenter cette sanction des États-Unis. Pour autant, il déclare que son client restait à Miami et qu'il se renseignerait pour savoir s'il pouvait obtenir un permis de travail, puisque je vous le rappelle, Michel Martelly, il vit à Miami, toujours en Haïti, ce nouveau commandant en chef pour les forces armées d'Haïti. Il s'agit du général Derby Guerrier. Le président du conseil présidentiel, Edgar Leblanc-Fils, et le premier ministre, Guéry Conny, ont installé hier mardi au Palais National, au cœur de Port-au-Prince, le général Derby Guerrier, à la tête des FADH. Franz Duval, du Nouvelliste, le rappelle, cette cérémonie s'est déroulée dans le palais présidentiel. C'est la deuxième depuis la prestation de serment hâtive et troublée du conseil présidentiel de transition. C'était le 25 avril dernier. Franz Duval qui précise que le passage de témoin entre le général Derby Guerrier et son prédécesseur a été plus tranquille que la prestation de serment de Guéry Conny qui s'est faite pour le coup en catimini fin avril.
RFI, the world's voices.
C'était hier soir à Chicago, lors de la convention démocrate américaine, la foule qui acclame le couple Obama pour soutenir la candidature de Kamala Harris à la présidentielle. Ce que l'on entendait, c'était « Yes, she can », »,« Oui, elle peut », référence au « Yes, we can », »,« Oui, nous pouvons » de Barack Obama. C'était en 2018 quand il était candidat. Le couple Obama qui s'est donc exprimé, Michelle d'abord, elle a défendu Kamala Harris en s'en prenant très franchement à Donald Trump.
Des deux principaux candidats en lice, seule Kamala Harris comprend vraiment ce travail de l'ombre et l'engagement inébranlable qui ont toujours fait la grandeur des États-Unis. Malheureusement, on connaît la suite. On sait qu'en face, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour déformer sa vérité. Mon mari et moi en savons malheureusement quelque chose. Pendant des années, Donald Trump a fait tout ce qui était en son pouvoir pour que les gens aient peur de nous. Sa vision limitée et étroite du monde l'a amené à se sentir menacé par l'existence de deux personnes qui travaillent dur, qui sont instruites et qui ont réussi, et qui se trouvent être noires. Je veux savoir qui va lui dire que le job auquel il postule pourrait bien être l'un de ces emplois occupés par les personnes noires.
Michelle Obama qui parle de black jobs, on l'entendait, elle fait référence en fait au débat à la fin du mois de juin entre Joe Biden et Donald Trump, débat où Donald Trump évoquait l'immigration. Il estimait que les emplois occupés par des personnes noires étaient menacés par l'immigration. Et une fois donc ce discours de Michelle Obama achevé, elle a accueilli comme il se devait son époux, ancien président des États-Unis.
Chicago, it's good to be home.
Barack Obama donc dans sa ville de Chicago pour prononcer un discours très attendu. Après un hommage appuyé à Joe Biden, il s'en est pris, comme sa femme d'ailleurs, à Donald Trump, tout en défendant évidemment la candidature de Kamala Harris.
Nous avons besoin d'un président qui se soucie réellement des millions de gens dans tout le pays, qui se réveille chaque matin pour faire un travail souvent ingrat mais essentiel. Soigner nos malades, nettoyer nos rues, livrer nos colis. Nous avons besoin d'un président qui restera debout pour leurs droits, qui va négocier de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. Et Kamala sera cette présidente.
Une prise de parole donc très attendue de Barack et Michelle Obama qui ont électrisé la foule, on l'entend, à foule présente à Chicago. Titre le Washington Post, Kamala Harris n'était pas dans la salle. Le New York Times explique qu'elle était à Milwaukee, à une centaine de kilomètres de là. Milwaukee, ville qui hante les démocrates, rappelle Politico, puisqu'en 2016, Hillary Clinton a perdu de justesse car précisément la candidate démocrate n'avait pas fait campagne dans cette ville. Aujourd'hui, c'est la troisième journée de cette convention démocrate à Chicago. Au programme notamment ce discours de Tim Walz, le colistier de Kamala Harris. Il va s'exprimer à la tribune. La candidate Kamala Harris qui doit aussi faire campagne pour convaincre un mouvement uncommitted, mouvement non engagé qui vise à faire pression pour que les États-Unis modifient leur politique à l'égard d'Israël et notamment politique de Joe Biden. Parce que durant cette convention, il y a des manifestations pro-palestiniennes devant le Congrès où se détiennent les discours. Rassemblement notamment hier qui s'est déplacé vers le consulat d'Israël à Chicago. Movement Uncommitted qui va donc peser dans cette campagne. Et on y revient en longueur avec vous, Jérôme Viala-Godefroy. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des États-Unis, docteur en civilisation américaine. Alors déjà, en quelques mots, on va poser les bases. Qui sont ces militants Uncommitted? Quel est leur poids et qu'est-ce qu'ils demandent?
Alors, ce sont souvent des jeunes. Il y a aussi quelques Palestiniens américains, des personnes d'origine du Moyen-Orient, par exemple, qui demandent en fait à ce qu'il y ait un cessez-le-feu et même la paix, c'est-à-dire que toute guerre s'arrête et qu'il y ait la paix à Gaza. Donc, en fait, c'est vraiment une pression qu'ils veulent mettre. Parce qu'ils savent en fait que l'élection risque d'être serrée dans un État comme par exemple le Michigan, où on a à peu près 100 000 Arabes américains, par exemple, qui peuvent voter.
Et justement, quelle est la position de Kamala Harris sur le sujet ?
Alors, elle a une position qui est assez proche de celle de Joe Biden, mais elle est quand même beaucoup plus critique envers Netanyahou. Elle a pris beaucoup ses distances. Elle a quand même, elle continue évidemment de dire qu'il faut aussi protéger Israël, notamment face à la menace iranienne. Mais voilà, elle a une position beaucoup plus en retrait. On l'a vu notamment quand Netanyahou est venu à Washington.
Il y a également une volonté pour Kamala Harris de discuter avec ce mouvement.
Oui, c'est ce qu'elle a fait. Elle l'a fait plusieurs fois. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que les manifestations sont quand même moins importantes que ce qui était attendu. Et voilà, donc on va voir aussi comment ça va se passer à l'intérieur de la convention. Pour l'instant, il n'y a pas eu trop de disruption, de problèmes, si vous voulez, de manifestations vraiment à l'intérieur. On a quand même une trentaine de délégués qui sont les non-engagés, hein, comme on a dit tout à l'heure, et qui représentent quand même à peu près 700 000 électeurs, hein, des délégués donc de la primaire.
Oui, 36 délégués, une comité au sein du Parti démocrate. Ils sont donc peu nombreux, très influents. Il y a une volonté, on le disait, de dialogue et d'apaisement manifeste de Kamala Harris. Elle a rencontré, par exemple, le maire de Dearborn. Vous l'évoquiez, la ville du Michigan qui abrite une importante communauté musulmane. Ça prouve finalement que c'est une priorité pour elle.
Oui, c'est important parce qu'il ne faut rien négliger. Vous parliez tout à l'heure du Wisconsin et de Milwaukee notamment. Elle va vraiment partout, elle ne néglige rien. C'est ce qui a été dit pendant la convention, y compris par les Obama hier soir. Rien n'est gagné. Ce n'est pas parce qu'il y a une dynamique en ce moment du côté démocrate qu'il faut négliger tous les électeurs potentiels dans une élection qui va de toute façon très certainement être serrée.
Elle a aussi rencontré Laila El Abed, leader du mouvement Un Committee du Michigan. Mais pour elle, en revanche, ce n'est pas assez. Qu'est-ce qui bloque entre le mouvement et les idées de Kamala Harris ?
Alors, il y a le fait que, pour l'instant, il n'y a rien déjà qui se passe réellement, c'est-à-dire qu'il y a des discussions, par exemple, d'un cessez-le-feu, mais il n'y a rien de concret. Ce qui serait idéal pour Kamala Harris, c'est qu'il y ait effectivement, par exemple, un cessez-le-feu. Blinken en parle, et les négociations continuent.
Mais le chef de la diplomatie américaine.
Mais il faut des choses concrètes. Exactement. Il faudra vraiment quelque chose de concret parce que pour l'instant, c'est surtout des paroles pour ces activistes et qui voudraient voir plus qu'un cessez-le-feu d'ailleurs. Hein, ils voudraient voir l'arrêt total des bombardements, notamment sur Gaza.
Oui, les Un Committee veulent une modification de la politique de Joe Biden au Proche-Orient et notamment en Israël. Est-ce qu'avec finalement ce retrait de Joe Biden dans la course à la présidentielle pour représenter le Parti démocrate, les Un Committee seront aussi véhéments avec elle ?
Non, je ne pense pas. Enfin, en tout cas, il y a cette idée que, parce qu'elle a plus d'ouverture, elle a moins une vision aussi pro-israélienne d'une autre génération, en fait, aux États-Unis, qui correspond vraiment à la génération de Joe Biden, qui a vécu quasiment le début de la... Enfin, qui a vu les premiers temps, il a connu Golda Meir, hein, vraiment dans les premiers temps d'Israël. Et il a une vision quand même... il le disait lui-même, hein, d'ailleurs. Il se qualifiait lui-même de sioniste, dans un sens plus positif, mais voilà, c'est le mot qu'il employait. Kamala Harris, elle, est beaucoup plus en retrait par rapport à ça, et en même temps, toujours l'idée de quand même assurer la sécurité d'Israël, mais je pense est capable de mettre beaucoup plus de pression sur Israël, comme l'avait fait d'ailleurs Barack Obama. Il ne faut pas oublier que Barack Obama, la relation entre Barack Obama et Netanyahou était très tendue à la fin de son mandat, et je pense qu'elle est plus dans cette tradition-là, on va dire, de cette génération d'Obama et de pression davantage sur Israël par rapport à toute la région.
Elle reste, on l'entend, on l'imagine, sur une ligne de crête. Pour autant, elle reste vice-présidente. Est-ce qu'elle peut être tenue comme comptable du bilan de Joe Biden ? En tant que vice-présidente.
Ah oui, alors ça, c'est la grande question. Il va falloir qu'elle joue un petit peu quelque chose, comme vous dites, sur la ligne de crête, c'est-à-dire à la fois assumer un minimum la politique de Joe Biden et tout en montrant qu'elle se différencie également, qu'elle est différente et qu'elle va faire quelque chose de nouveau. D'ailleurs, si on regarde dans les sondages, finalement, les gens pensent qu'elle n'a pas eu beaucoup d'influence sur l'administration Biden. ce qui peut être un avantage pour elle. Il va falloir qu'elle se redéfinisse clairement. Et pour cela, eh ben, il y aura le discours de demain et qui va être vraiment important.
Aujourd'hui, c'est son colistier, Tim Walz. Parlons de Tim Walz. Est-ce qu'il peut aider cette image pour faire changer, il peut appuyer cette image, pardonnez-moi, pour faire inverser la tendance?
Oui, globalement, il est quand même. C'est quelqu'un qui a une. Qui est alors plus à gauche, on va dire, dans sa politique en tant que gouverneur, mais surtout, c'est quelqu'un qui est assez proche du peuple, qui parle comme les gens. C'est un ancien prof, un ancien coach. Et il est vraiment dans la discussion avec des mots simples. Et je pense qu'il peut effectivement être quelqu'un qui apparaît comme proche de la classe moyenne et qui aussi peut avoir un effet sur les électeurs de tous ces États qui sont dans le Midwest, hein, autour des Grands Lacs, comme le Wisconsin, qui n'est pas loin hein, du Minnesota, juste à côté, ou même du Michigan. Donc voilà, il faudra voir ce que ça va donner, mais c'est vraiment quelqu'un qui a un attrait important auprès de ce type de population, notamment des Blancs, des Blancs de la non seulement de la couche moyenne, mais aussi des cols bleus, c'est-à-dire la classe ouvrière, qui votent plus pour Donald Trump.
Eh bien, merci beaucoup pour ce décryptage, toutes ces précisions, Jérôme Viala-Godefroy. Merci à vous, vous êtes spécialiste des États-Unis, docteur en civilisation américaine.
Le journal de l'Outre-mer.
À 15h26, ici à Paris, l'actualité des Outre-mer. Avec nos confrères de la première, elle est une, ces problèmes d'eau en Guadeloupe qui continuent. À Marie-Galante, on en est réduit parfois à distribuer des bouteilles d'eau aux habitants, Benoît Ferrand.
Oui, à Marie-Galante, les restrictions d'eau ont été prolongées d'un mois et en Guadeloupe, dite continentale, on en est réduit, vous le disiez, à distribuer des bouteilles aux habitants. Exemple hier dans la commune du Gosier, à quelques kilomètres de Pointe-à-Pitre, où chaque foyer a eu droit à deux packs de 6 bouteilles, l'eau du robinet ayant été déclarée impropre à la consommation. Écoutez la colère de cet habitant du Gosier, suivie de la réaction de la maire de la commune, Liliane Montout.
Il faut acheter de l'eau, il faut payer la facture de l'eau et c'est vraiment pas évident du tout. Et le pire, c'est que quand on a déjà bu l'eau ou on s'est servi de l'eau, on nous dit que l'eau n'est pas à la consommation. Alors ils nous contaminent et voilà.
On en a marre. Et puis le pire, c'est qu'on nous envoie des factures forfaitaires à payer. Or qu'on n'a pas d'eau, on a de l'eau empoisonnée chez nous, il faut payer l'eau. C'est pas normal. Il faut que l'État mette son nez dans ce projet-là, dans ce truc-là. C'est pas logique. Personne ne dit rien, personne ne réagit. C'est pas normal. Je suis sûre qu'en métropole, les gens auraient déjà fait une manifestation quelconque.
Il y a eu quand même tout le week-end où on n'a pas pu. Samedi, on a quand même livré un peu d'eau qu'on avait en stock. Mais c'est vrai que tout le week-end, on n'a pas eu de livraison du SMGEAG. Donc, ils ont attendu quand même 2 jours avant cela. Donc, d'où l'agacement. Mais on ne peut faire que ce qu'on peut, hein, de toute façon. Hein.
Une habitante du Gosier et la maire, Liliane Montout, au micro de Alexandre Houda. Mesurer le taux de chlordécone dans le sang, on appelle ça la chlordéconémie, c'est possible aux Antilles depuis 2021. Test gratuit, accessible à tous et les Martiniquais seraient chaque année plus nombreux, si l'on ose dire, à en profiter. Xavier Chevalier.
Depuis 2021, 23 417 personnes ont effectué ce test. Chaque année, depuis le lancement de ce dispositif, les chlordéconémies sont en hausse, passant de 3 686 prélèvements la première année à 13 137 en 2023, d'après l'ARS. Dans le détail, avec un âge moyen de 56,5 ans, ce sont plutôt les seniors et les femmes, 56%, qui ont recours au dosage. Les personnes résidant dans les communes du Nord-Atlantique participent plus volontiers, notamment à Grand-Rivière, Basse-Pointe, le Lorrain et à la Trinité. Une majorité des personnes testées sont dans la limite de microgrammes par litre de sang. Cependant, 14% d'entre eux sont supérieurs au seuil d'intervention renforcé, entraînant une visite à domicile. Ce test sanguin est mis en place depuis 2021 par l'Agence régionale de santé de Martinique. Il est accessible à tous, avec ou sans prescription médicale. Cette mesure du dosage de la chlordécone dans le sang s'inscrit dans un parcours permettant d'adapter son alimentation afin de réduire son exposition.
Xavier Chevalier de la Première Martinique. Bon après-midi Stéphane, à demain.
À demain Benoît Ferrand, très bonne à vous aussi. C'était le journal des Outre-mer avec nos confrères de la Première. C'est ainsi que sera fermé RFI Midi. Merci à vous pour votre fidélité. À la rédaction en chef, Benoît Almeras, à la réalisation, Vincent Bito. Un grand merci à tous les deux. Très bon après-midi sur la Radio du Monde.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
À l'occasion du centenaire de James Baldwin, né en août 1924, je vous propose un portrait inédit de l'écrivain américain qui toute sa vie s'est battu contre le racisme, les inégalités sociales et l'homophobie. De Harlem à Paris où il a vécu, James Baldwin, une voix et une pensée essentielles.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI.